viens pour vous parler de John Carter, une série de romans donc écrit par Edgar Burroughs. Donc Edgar Burroughs, peut-être plus connu dans nos contrées pour avoir écrit Tarzan. Tarzan qui est quand même un personnage, un mythe populaire pour reprendre le sous-titre de l'émission, très connu puisqu'il était adapté maintes et maintes fois en BD, en film. En série, je me demande même s'il n'y a pas eu un feuilleton radiophonique sur le personnage. Il me semble que le cycle de Mars, donc de John Carter, a été écrit avant qu'il se lance en Tarzan, mais là, j'avoue que j'ai pris des notes, mais j'ai pas noté ça. J'ai pas noté les premières parutions de Tarzan. Donc, que vous dire sur cette série de romans? Comme un imbécile, j'ai même pas noté combien il y avait de romans en tout, mais je crois qu'il y en a une bonne dizaine. Attendez, il y en a 11, exactement. Il y en a 11. Donc, ce qu'il faut savoir déjà et d'une, c'est que tous les romans n'ont pas pour héros John Carter. On appelle ça le cycle de Mars, et qu'il y a une très bonne raison, c'est que, en fait, ça se passe sur donc la planète Mars, mais qu'il n'y a pas qu'un seul héros. Il y en a beaucoup. Donc, comme je vous le disais, 11 romans qui n'ont pas tous les mêmes héros ou héroïnes, mais on va à plusieurs moments en fait recroiser des personnages qu'on a déjà vus, des personnages qu'on a déjà vus deviennent les héros de romans ultérieurs. De même, on pourra recroiser John Carter plus tard dans des romans dont il n'a pas le rôle titre. Donc Burroughs a vraiment créé un énorme univers autour de ce cycle de Mars. 11 romans, c'est quand même pas rien, c'est quand même assez énorme. J'ai un peu présenté déjà peut-être pas le contexte historique. Bah déjà vous dire que ça a été publié pour la première fois en 1912 dans des magazines littéraires, donc c'était le All Story Magazine, donc tous ces magazines qui prendront pulp, qui prendront après beaucoup plus d'importance. Je sais pas, je m'avance un peu en disant ça. Non, c'est plus des romans qui verront après, entre autres, des auteurs comme Lovecraft ou encore. J'ai perdu son nom. C'est très malin ça. L'auteur de Conan. Oh là là, il y en a qui vont me tuer pour avoir oublié ce génie de l'heroic fantasy, il faut bien le dire. Les perdus, là, ça va pas me revenir, c'est atroce, ça. Enfin, voilà, tous ces auteurs un peu pulp de la première moitié du siècle, voire même après. Non, je continue de chercher l'auteur de Conan, c'est pour ça que je fais beaucoup de... je tiens à le dire. C'est assez gênant de perdre un auteur aussi important que celui-là. Ah, ça m'énerve, ça va pas me revenir. Enfin, bref. Je reviens un petit peu à mes moutons. Donc, John Carter, qui était donc publié dans All Story Magazine en 1912 et qui a été plus tard repris en roman en 1917. Donc il me semble que la première partie qui était publiée en magazine s'appelait Sous les lunes de Mars, et après il y a eu tout un truc autour du titre. Alors il savait pas trop comment l'appeler, donc au final il s'est appelé La Princesse de Mars, mais en fait on l'a appelé déjà Toris, Princess of Mars. Ensuite on a repris le nom du magazine, je crois. Enfin il y a eu plein de choses comme ça. Voilà, où le d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, mais c'était aussi une question qui s'est posée pour le film qui va sortir, justement, puisqu'au départ, il l'avait appelé, en pré-prod. Du moins, il l'avait appelé John Carter, guerrier de Mars, donc Warlord of Mars, qui est le titre du troisième roman, qui est devenu un petit peu une marque déposée, Warlord of Mars. Enfin. Ça aussi, c'est sujet à débat, donc j'ai pas non plus rentré dedans. Mais suivant le public qui voulait toucher, ils savaient pas trop. Ils ont changé le titre à plusieurs fois pendant la pré-prod, ce qui est assez rigolo, puisque apparemment c'est ce qui. L'histoire se répète, en fait. Voilà, l'histoire se répète suivant les formats. Donc, ce cycle de 11 romans, comme je vous le disais, donc qui va être. Qui va prendre, en fait, tout Mars, toute la culture martienne, Barsoom, comme l'appelle en fait Burroughs dans ses romans, puisque comme les habitants de la Terre appellent la Terre, leur planète la Terre, en fait, les habitants de Mars s'appellent Mars Barsoom. Voilà, rien de plus normal, puisque il me semble qu'au départ, le nom de Mars vient des dieux grecs ou romains, je ne sais plus. Enfin, un panthéon donc antique de chez nous, donc il n'aurait pas été effectivement très très logique de reprendre le même nom pour les autochtones. Que puis-je vous dire? Donc, pour être tout à fait franc, voilà, je n'ai pas lu toute la série, j'en ai même lu assez peu. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai lu que le premier, là je suis en train de lire le deuxième. Donc je vais vous parler de ce que j'ai lu. Voilà, je ne vais pas vous mentir et vous dire que « Ah, mais j'ai lu les 11 romans, bien sûr, mais oui !» Non, non, et je suis même assez... c'est même très récent, puisque pour tout vous dire, en fait, ces romans étaient... il me semble, en tout cas, je ne les trouvais pas. Alors peut-être que mes recherches n'étaient pas assez, assez poussé, en tout cas je ne les trouvais pas, et je les ai trouvés donc en bouquiniste, les quatre premiers, donc chez Albin Michel, donc qui sont des vieilles éditions, donc je vais vous dire, il doit y avoir le copyright 88, édition Albin Michel 88, donc j'ai trouvé les quatre premiers. Mais à l'occasion du film, vous pensez bien qu'il n'aurait pas raté ça, un éditeur, Omnibus en l'occurrence, ressort les cinq premiers romans du cycle. Donc, La Princesse de Mars, Les Dieux de Mars, Le Guerrier de Mars, Tuvia, Vierge de Mars et Échec sur Mars. Que de Mars. Donc, tout ça pour le prix formidable de 28 euros. Voilà, il me semble que c'est déjà sorti. Je suis sûr que vous les trouverez en tout cas avant le film, et vu que le film sort de 7 mars, il me semble, oui c'est ça, 7 mars, que nous sommes le 21, voilà, s'il n'est pas sorti, il devrait pas tarder du tout. Donc, après cette petite introduction, voilà, je vais vous laisser avec une petite musique d'ambiance, qui est en fait la musique qui avait été choisie pour le teaser, le premier teaser qui, franchement, je trouve, qui moi m'avait mis une l'eau à la bouche à un point pas possible, de John Carter, qui est donc en fait la reprise de Peter Gabriel, de My Body The Cage d'Arcade Fire. Que je vais vous parler un petit peu déjà du premier volume, donc qui s'appelle La Princesse de Mars. Le roman commence, alors il y a une... faut pas que je commence comme ça. Non, je vais vous parler déjà de la préface de l'auteur, qui est, je pense, une des meilleures préfaces que j'ai jamais lu, qui est en fait donc de l'auteur de Burroughs aussi. Comment la raconter sans vous spoiler la chose ? Je ne sais pas quoi vous dire pour vous vendre le truc correctement. C'est une des préfaces qui prend le lecteur par la main et qui lui présente tellement de mystères, tellement de... La dernière phrase de cette préface m'avait laissé estomaqué, le dernier paragraphe. Et bah tiens, allez, hop, pour le plaisir... Pour le plaisir, je vais vous lire ce paragraphe. Il est un fait bizarre, relatif à la tombe où son corps gît toujours. C'est que la porte massive du mausolée dans lequel elle se trouve est munie d'une grosse serrure à ressort et à peine. Le tout en or massif, laquelle ne peut être actionnée que de l'intérieur. Et voilà, là-dessus, il lance un magnifique... Je trouve que c'est vraiment un très bon roman, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme je vous l'ai dit, il était écrit au début du siècle, et à cette époque, l'imaginaire était encore très... Je vais pas dire vierge, mais il y avait encore... l'image n'avait pas la prépondérance qu'elle a maintenant. Et en fait, il y avait peu d'images qui étaient collées comme ça dans l'inconscient collectif. Là, il arrive... On sent vraiment, dans toutes ces descriptions, dans ces reconstitutions, oui, si vous, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on sent de l'originalité. Même encore aujourd'hui, il y a une originalité. Et ça, bah, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai pris un plaisir assez phénoménal, en fait, à lire ce livre, parce que c'est un livre qui permet de laisser courir son imagination, de vraiment... Les descriptions sont suffisamment précises, mais suffisamment lâches pour vraiment donner libre cours à son imagination. Et si c'est pas la plus belle partie de la lecture, je ne sais pas ce que c'est. Il crée tout un monde qui a d'ailleurs influencé dernièrement Avatar, encore avant Star Wars. Je vais pas dire qu'il a inventé le space opéra, enfin même si, non, ça se passe pas dans l'espace. Disons plutôt du planète opéra. Ça se passe sur une seule planète, c'est très exotique, il y a plein de choses. Je pense pas qu'il ait créé le genre. Alors là, faudrait vraiment faire une petite... Il y a des gens qui sont beaucoup plus cultivés que moi, qui sauront peut-être mieux vous répondre. Je reste assez humble là-dessus. Mais c'est vraiment... On a vraiment le... On est emporté dans un décor qu'on ne connaît pas. Et comme dirait l'autre, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et effectivement, en retrouvant cette planète opéra, Sierra, donc Sword and Fantasy aussi peut-être. Du début du siècle, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est encore plein de surprises et d'originalité, et ça c'est très très fort. Parce que beaucoup s'en sont inspirés pour faire de l'image, des films, il y a eu nombre d'adaptations BD, et je trouve qu'on arrive encore à... Alors ce sera peut-être plus pareil avec le film, malheureusement. Ce sera peut-être un des effets négatifs du film pour ceux qui liront les livres après l'avoir vu. C'est vraiment ce que j'adore, c'est que c'est au moins le premier, et le deuxième en fait vraiment partie puisqu'il commence sur la même lignée. C'est-à-dire que ça fait pleinement appel à votre imaginaire, et ça c'est bien. Moi j'ai mis du temps, je me souviens que j'ai mis beaucoup de temps à me dire à quoi ressemblait s'il est une espèce d'animal de compagnie sur Barsoom. Et j'ai dû passer, je me souviens, j'étais en train de lire anecdote totalement débile, mais j'ai passé une demi-heure au puits en train de m'imaginer la tête que ça pouvait avoir, et j'arrêtais pas de revenir sur l'image que j'en avais, la remodeler, la remodifier. Et ça, c'est vraiment ça. Je trouve que ça n'a pas de prix. Voilà. Ça n'a pas de prix, ce genre de choses. Et rien que pour ça, ces livres devraient être. Alors ensuite, ce qui est aussi très très intéressant, c'est qu'il construit vraiment toute une société. Enfin, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il crée vraiment une société, des hiérarchies sociales. Il explique plein de choses. Il passe beaucoup de temps dans le premier roman. Je pense, peut-être pas la moitié, mais aussi pas loin quand même, à expliquer les interaction sociale, comment marche telle bestiole. Et ça c'est vraiment, on est plongé dedans. Une fois qu'on est arrivé à s'immerger dans le livre, on est vraiment plongé dedans, et c'est très bien. Alors après, si on pouvait trouver des inconvénients à cette chose-là, c'est qu'effectivement, c'est pas que ça manque d'action, mais certains pourraient trouver que ça met du temps à se mettre en place. Et aussi, on sent qu'il crée un univers et que lui-même, l'auteur, Burroughs, est assez hésitant. Je dirais pas qu'il y a des erreurs, mais il y a des choses qui sont évoquées comme la télépathie. Tous les habitants de Barsoom sont télépathes. En fait, il n'y a pas de barrière de langue, ni rien. Alors, sauf John Carter, qui bien sûr est immunisé à une sorte de barrière psychique qui empêche la télépathie. Donc, les Martiens ne peuvent pas lire dans son esprit, et lui non plus ne peut pas lire dans les leurs. Pour l'instant, du moins, là où j'en suis, on sent que, bon, il sait pas trop quoi en faire. Mais ça reste des détails, j'ai envie de dire, puisque une fois qu'on est dedans, c'est peut-être en refermant ce premier livre qu'on se fait ses réflexions. Sur le moment de la lecture, ça ne gêne pas, ce qui est quand même le plus important. Donc là, j'ai commencé le deuxième il y a assez peu de temps, et qui démarre sur les chapeaux de roue, qui démarre très très bien. Donc je reviendrai peut-être vous en parler quand on parlera du film, où j'évoquerai peut-être la chose, mais voilà. En tout cas, je vous conseille ces romans, donc qui sont ou vont sortir chez Omnibus. Alors c'est vrai que ça fait un intégral de 5 romans, mais bon, 5 romans, 28 euros, ça fait un peu plus de 5,50. Le roman, ça fait pas grand chose. Alors j'ai pas vu s'il y avait des illustrations, quoi. Je ne sais pas si je ne possède alors aucun livre de chez Omnibus. Je crois pas que ce soit chargé d'illustrations. Et intégrer des illustrations entre les multiples illustrations de couverture des romans qui sont sortis. Alors entre autres, Frazetta qu'on a fait pas mal. Alors des illustrations sur le cycle de Mars. Est-ce que c'était des illustrations pour des couvertures des romans, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas qui est assez fou pour dire non à du Frazetta, en tout cas pas moi. Voilà, donc Frazetta, qui a aussi illustré Conan, dont je n'arrive toujours pas à me souvenir de l'auteur. Oh, c'est affreux. Je vais le retrouver après l'émission, et ça va être atroce, je vais m'en vouloir à vie. Donc à mon avis, un très très bon achat à faire, si vous aimez en tout cas ce type de littérature. Donc je vous dis Planète Opéra, Sword and Fantasy. En un sens, on pourrait peut-être rapprocher ça de Dune, dans le sens où ça se passe sur une planète. Le cycle n'a pas qu'un seul héros, puisque Paul Atreides ne reste pas le héros pendant tout le cycle. Alors, pareil, là non plus, je n'ai pas lu tout le cycle, mais au bout d'un moment, j'avoue que au bout du 4 ou 5e, j'ai commencé à un peu trouver ça ennuyeux. Le plaisir n'était plus là, dirons-nous. Et donc, j'ai un peu fait l'impasse sur le reste. Là, c'est peut-être un peu plus axé sur l'action et moins sur les complots, etc. Enfin, pour ceux qui ont lu Dune, je pense que vous comprendrez l'allusion complot à tous ces... Enfin, Quoique il y a aussi pas mal de, bah, de religions de la planète dans Dune, ce qu'on retrouve quand même, bah, là je commence le deuxième qui s'appelle donc les dieux de Mars, qui ressemble farouchement quand même aussi à une réflexion sur la religion, sur les divinités, etc. Ce qui est, enfin, j'ai pas fini de le lire, donc je ne peux pas donner la conclusion de ma réflexion sur la chose, mais voilà. Je vais donc bah, passer directement au film, puisqu'en fait j'ai beaucoup de choses à en dire. Je vois l'heure en fait. Oui, quand on est tout seul, on parle, enfin je parle beaucoup en tout cas. Ah, alors problème, ça sonne à la porte. Je vais ouvrir et je reviens tout de suite, promis, juré. Et me revoilà, voilà, c'était... alors c'était pas du tout la porte, c'était le téléphone, voilà. Bon, c'est dit, c'est fait. Et ce coup de téléphone en fait était de Tony qui même à distance m'apporte de l'aide, merci Tony, et qui donc... me rappeler que c'est Robert Howard qui a bien sûr écrit Conan, Solomon Kane, Hercule, Roi la Talente. Bon, après tout ça, bah, je vais vous très rapidement vous parler des adaptations comics. Allez, bah, déjà il y a eu un comic strip par le fils de Burroughs, voilà, c'est à signaler, donc John Coleman Burroughs, qui a dessiné un strip reprenant les aventures de Mars. Alors après, j'avoue que mes connaissances en comics ne sont pas suffisantes, que c'est de la recherche Wikipédia. Donc mais voilà, donc je vous dis ce que j'ai trouvé. Donc de 72 à 73, donc il y a eu des adaptations chez DC, ensuite 77, 79 chez Marvel. Voilà, bon, c'était vraiment pour le dire. Donc en ce moment, il y a des adaptations de Deja Torres, Warlord of Mars chez Dynamite, mais qui font l'objet de poursuites judiciaires de la part de ERB Enterprise, je crois. Enfin, c'est en fait les ayants droit de Edgar Rice Burroughs qui en fait ont intenté des, puisque en fait le film est produit par Disney qui détient les droits d'adaptation. Marvel appartenant à Disney fait également des adaptations des romans en ce moment même. Dynamite produit en même temps, donc à la fois je crois Deja Torres, Warlord of Mars, et en ce qui concerne Tarzan, Lord of the Jungle. Et alors même si les marques ne sont pas vraiment déposées, les ayants droit ont intenté une action en justice parce que pour eux en fait les noms qui étaient déposés, et c'était des, donc je crois que Lord of the Jungle et Warlord of Mars sont des noms des romans des cycles respectivement de Tarzan et de du cycle de Mars. Pour eux, c'est en gros, c'était un non-dit dans les droits que ces noms-là étaient déposés. Qu'en fait, c'était simplement l'appellation plus longue des noms qu'ils ont déposés. Donc, ça pose problème. Donc, il se pourrait que là après, on rentre dans un millimélo. Je ne suis pas sûr de comprendre de droits entre les pays qui n'ont pas en fait les mêmes durées de poursuite des droits et de domaine public. En tout cas, les adaptations qui sont faites en ce moment chez Marvel ne courent aucun risque, étant donné que c'est la même boîte qui fait le film. Ce serait assez bizarre que Marvel ait des ennuis à ce niveau-là. Après, il me semble que Dark Horse aussi en a fait pour Tarzan. Ils avaient les droits de Tarzan, il me semble, puisqu'ils ont sorti plusieurs crossovers, et ils ont sorti aussi un crossover avec John Carter, il me semble. Donc Dark Horse a dû... qui était il n'y a pas si longtemps que ça encore, les champions de l'adaptation de licence en comics, avec, on connaît tous les Predators, Robocop, etc. Donc, je vais continuer, allez, je suis bien parti sur ma lancée, je vais continuer sur le film. Donc, que vous dire sur le film ? Alors déjà, le réalisateur qui est Andrew Stanton, qui est un réalisateur qui vient de Pixar, voilà, qui vient de Pixar, donc comme les Brad Bird, qui a signé Mission Impossible 4, qui est sorti il y a un mois, même deux mois, je dirais. Qui, pour l'avoir vu, je trouve, est certainement le meilleur Mission Impossible, puisqu'il est drôle. Il est drôle et il arrive un petit peu à se moquer du truc, enfin bref. Donc si Andrew Stanton fait le même passage de témoin que Brad Bird l'a fait, ce sera déjà une belle assurance de quelque chose de très très beau. Et très très bien filmé en tout cas. Ensuite, tous les artworks qui ont été montrés, toute la chaîne graphique du film a l'air magnifique. Vraiment, il y a un souci d'aller chercher des petites choses, de faire pas forcément ce à quoi on s'attend en ayant lu les livres, en essayant de se détacher peut-être des précédentes adaptations en comics par exemple, ce que je trouve plutôt pas mal, puisque ça donne une sorte de multiplicité en fait à l'univers, une multiplicité graphique, et chacun peut aller piocher celle qu'il aime ou même se faire la sienne sans pour autant s'attacher forcément au film. Alors autre point très très positif qui me fait attendre ce film avec impatience, c'est la collaboration active de Michael Chabon au scénario. Alors Michael Chabon, je ne sais pas si on en a déjà a parlé, on l'a certainement déjà évoqué ici, donc qui a écrit entre autres Les Extraordinaires Aventures de Cavalier and Clay, qui est un roman qui prend vraiment pour carte des créateurs de comics, qui prend vraiment quelque chose qu'on connaît bien, enfin du moins une histoire qu'on a appris à aimer, qui déroule ça sur le temps d'une vie en fait, qui déroule le temps d'une existence sur un duo de créateurs qu'on peut rapprocher de Siegel et Shuster, les créateurs de Superman, qui est vraiment un magnifique roman. À l'occasion, je reviendrai vous faire une chronique entière dessus, même si c'est pareil, c'est assez dur. C'est très dur. Enfin, je trouve que c'est très dur de faire des chroniques sur des romans, puisque la lecture d'un roman, c'est une expérience assez personnelle. C'est difficile de la retranscrire. Je trouve ça beaucoup plus personnel que la lecture d'une BD ou la vision d'un film, puisque je trouve que dans un roman, chacun va piocher ce qu'il aime, plus, enfin, va se faire ses propres images, va s'attacher à des choses différentes. Je trouve que c'est moins guidé. Après, c'est peut-être un sentiment personnel, mais voilà. En tout cas, j'ai lu deux romans de cet auteur, donc de Michael Chabon, les Extraordinaires Aventures de Cavalier and Clay, et Le Club des Policiers Yiddish, que j'ai trouvé, enfin, tous deux vraiment de magnifiques romans, vraiment de très très beaux romans. Et c'est quelqu'un c'est un auteur qui arrive vraiment à s'attacher, enfin, qu'on s'attache aux persos, qu'on les comprenne et qu'on ressente très bien les enjeux qui les animent. Il n'y a pas de sentimentalisme, mais il y a du sentiment. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui écrit très très bien. Et donc, ça me laisse une très 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 bonne impression pour ce film. Ensuite, il y a quand même une pléiade de bons acteurs. Il y a quand même Mark Strong, William Dafoe, Bryan Cranston. Alors, Taylor Kitsch, qui interprète le rôle principal, on ne connaît pas beaucoup. Alors qu'on a pu voir, alors ça va pas vous faire plaisir, dans Wolverine Origins, voilà, c'est dit, qui jouait Gambit. Pour être tout à fait honnête avec lui, on peut pas dire que dans ce film on puisse juger son talent d'acteur, puisque le rôle est quasiment inexistant. Il doit avoir, allez quoi, 4 phrases dans le film et à faire plus de cabriole qu'autre chose. Bon, ce qui correspond en même temps plus ou moins au personnage. Mais je sais pas, voilà, moi j'ai plutôt un bon a priori sur ce film. De toute façon, cela va sans dire qu'on ira le voir et qu'on vous en reparlera à ce moment-là. Donc voilà, je pense vous avoir fait une petite introduction sur l'univers de Mars. Enfin, en tout cas sur les romans, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de l'univers. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère vous laisser la surprise, que ce soit pour le film si vous n'avez pas vu de promo. Parce que je trouve que pour un film qui sort dans 15 jours, il y a des bandes-annonces qui sont sorties il y a très longtemps, en août. Juillet-août, qu'on a vu au cinéma en France. Et depuis, j'ai pas vu d'affiche. J'en ai à 10-15 jours maintenant de la sortie du film. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait droit à une énorme promo. Si vous en voyez, essayez de vous couper de ça et puis soit de lire les romans, donc je le rappelle, chez Omnibus. 28 euros, les 5 premiers romans. Ils sont bons, ma bonne dame. Ou d'aller voir le film. Voilà. Et essayez de. Puisque c'est important d'essayer de préserver son esprit de toute. Idée préconçue qu'on peut se faire surtout sur ce genre de film qui cultive quand même tout un bestiaire de l'imaginaire, et c'est très bien de se laisser surprendre par l'imaginaire.